Auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous toutes les quatre semaines. J'aurai pour cette émission deux invités de qualité. D'une part, Michel Junot, ancien préfet, président d'honneur du CNIP, ancien député au Parlement français et ancien député au Parlement européen, d'une part. Et d'autre part, j'aurai Bruno Gollnisch, actuel député au Parlement européen, ancien doyen de faculté, délégué général du Front National. Et puis, je suis assisté, comme cela a été rappelé à l'instant, par Bénédicte. Et puis, comme à l'accoutumée, je suis également accompagné par Jean de La Fontaine, puisque c'est une coutume sympathique que j'ai depuis le début de cette émission, celle de vous lire une fable de La Fontaine. Et alors, la fable de La Fontaine que j'ai retenue pour ce jour se veut un hommage à Jean Ferré. En effet, vous le savez, nous avons eu la grande tristesse de perdre Jean Ferré le 10 octobre dernier. Il a été inhumé mardi dernier et j'ai choisi une fable de La Fontaine qui lui est dédiée. Je sais que du haut du ciel, il y sera sensible puisqu'il appréciait tout particulièrement cette initiative que j'avais eue de lire une fable de La Fontaine. J'ai retenu pour ce jour la fable qui s'intitule « La mort et le bûcheron ». Et bien évidemment, dans mon esprit, le bûcheron, c'est Jean Ferré. Je vous en donne lecture. Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, sous le faix du fagot aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait à pas pesants et tâchait de gagner sa chaumine enfumée. Enfin, n'en pouvant plus d'efforts et de douleurs, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Point de pain quelquefois et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort, elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire, c'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois. Tu ne tarderas guère. Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes, plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. Voici donc pour cette fable de La Fontaine qui se voulait un hommage à Jean Ferré. Et pour répondre à la volonté affirmée tout au long de cette ténacité dont a fait preuve Jean Ferré, eh bien, nous veillerons, nous autres, à la fois animateurs d'émissions, mais également auditeurs, nous veillerons avec un soin extrême à recueillir cet héritage que nous a laissé Jean Ferré et assurer la vie et la survie de Radio Courtoisie, ce qui implique, mes chers auditeurs, qu'il faille que vous contribuer également à l'équilibre financier de Radio Courtoisie dont nous nous sommes rendus compte, Jean Ferré était d'une discrétion rare, dont nous nous sommes rendus compte qu'il est particulièrement préoccupant. Donc voici pour cet hommage à Jean Ferré par Jean de La Fontaine. Et avant que de donner la parole à mes invités qui sont, je vous le rappelle, Michel Junot et Bruno Gollnisch, nous allons appeler une personne qui va nous parler de cette grande réunion de ce soir. Cette réunion de ce soir, en effet, c'est les assises nationales de l'association Contribuables Associés au Palais des Congrès à Paris. Et, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes tout particulièrement invités à assister ce soir de 18h à 20h au Palais des Congrès à Paris, à ces assises, avec où il y aura des tables rondes avec différentes personnalités. Ce sera un grand rendez-vous de la France profonde face, je dirais, au système que nous avons. Et c'est un sujet d'ailleurs que nous évoquerons également avec mes invités Michel Junot et Bruno Gollnisch, puisque nous allons axer notre conversation tout à l'heure sur les problèmes quotidiens des Français, et puis peut-être avec quelques évocations également de certains anniversaires, Budapest, et puis en particulier la situation internationale aussi qui est assez préoccupante. Est-ce que la technique est en liaison? Nous cherchons à joindre Benoît Taffin, que nous allons avoir dans un instant. Benoît Taffin étant la porte-parole de Contribuables Associés, je l'avais accueilli à ce micro voici deux ou trois mois en compagnie de Monsieur Mathieu, qui est l'actuel président de Contribuables Associés, qui est certainement la ligue de contribuables la plus puissante actuellement et qui fait entendre sa voix, y compris dans une enceinte particulièrement close qui s'appelle l'Assemblée nationale. Il y a un effort qui est fait, même s'il est un petit peu rempli d'une certaine naïveté, parce que lorsqu'on connaît un peu les arcanes de cette maison, les choses freinent énormément. Voilà, je crois que nous avons Benoît de Taffin. Allô ?
Allô, bonjour !
Benoît de Taffin, c'est Michel de Rostelan. Je suis en compagnie de Michel Junot et de Bruno Gollnisch. Et nous voulions accueillir avec intérêt le rendez-vous sympathique que vous nous proposez ce soir, que vous proposez surtout aux auditeurs de Radio Courtoisie. Vous avez la parole.
Ben d'abord, un grand merci et bonjour à vos deux invités.
Bonjour Benoît.
Michel Junot.
Bonjour madame.
Donc je suis ravie de ces quelques minutes, en quelque sorte, en votre compagnie. Et merci beaucoup Michel de Rostelan de me donner la parole. Donc effectivement, Contribuable Associé tient ce soir des assises au Palais des Congrès de la Porte Maillot, dans le grand auditorium qui peut tenir plus de 3000 personnes. La dernière fois, c'était en l'an 2000 que nous nous étions réunis. Entre-temps, on a plutôt fait le Tour de France dans différentes grandes villes.
Oui.
Et donc ce soir, nous serions ravis d'avoir les auditeurs de
Radio Courtoisie, qui sont également des contribuables.
Qui sont également des contribuables, qui nous connaissent bien et qu'on apprécie. Et donc, il suffit de se présenter avant 6 heures au grand auditorium. Nos membres nous ont déjà écrit, répondu, ont reçu leurs invitations, mais on peut remettre tout à fait ce soir même, un peu avant 6 heures, les invitations sur place. Alors, au programme, nous avons un démarrage tout à fait sympathique, puisque la première intervention, après l'ouverture par Alain Mathieu, notre président,
c'est
Jean Amadou, je suis sûr.
C'est un ami.
Donc ce grand humoriste qui se produit notamment aux Deux Ânes et qui anime des rubriques aussi sur des radios, nous l'avons pour 20 minutes.
Vous commencez par l'humour avant les grincements qu'apportera notre ami Marseille.
Voilà, on s'est dit qu'avant de passer aux choses trop sérieuses et douloureuses, donc après c'est Jacques Marseille, qui va, avec son talent habituel, nous parler, hélas, bien évidemment, de ce qui ne va pas. Et puis ensuite, on aura la chance de retrouver beaucoup d'amis sur la scène, toutes les associations avec qui on a l'habitude de travailler, un représentant de Radio Courtoisie. Et puis, il y aura une table ronde avec 6 députés, animés par Olivier Truchot, qui est un de vos collègues de RMC.
Mmh.
Et donc, 6 députés qui sont des gens avec qui on a l'habitude d'avoir déjà fait un bout de chemin, d'avoir travaillé.
Qui sont plutôt moins mauvais que les autres.
Voilà, ils sont prêts à travailler avec nous, ce qui est quand même un point extraordinaire.
Vous reconnaissez mon humour caustique, Benoît.
Mais écoutez, je le partage, parce que vous savez, quand j'étais devenue présidente en 96, on me mettait dehors de l'Assemblée nationale.
Mmh.
Alors que maintenant, des députés nous reçoivent, qu'ils acceptent d'être à nos côtés.
Ah, mais nous apprécions beaucoup votre opiniâtreté. De toute manière, il ne faut jamais relâcher la pression, et je crois que les auditeurs de Radio Courtoisie en sont absolument convaincus.
Je pense qu'en tout cas, c'est un des points sur lequel on a vraiment avancé. D'ailleurs, on projettera un petit film qui s'appelle « Nous les avons amenés sur notre terrain ».
Mm-hmm.
Donc, ce sont, quand on dit « nous les avons amenés », ce sont aussi bien les médias que les hommes politiques. Donc, les seuls qui nous recevaient, il y a quelques années, c'était Radio Courtoisie.
Mm-hmm.
Donc, depuis, on a quand même quelques médias qui ont repris nos idées, voire qui m'invitent sur un plateau.
Mm-hmm.
Et nous avons donc des hommes politiques qui marchent, en tout cas partiellement, avec nous. Ils sont quelquefois moins courageux au moment des investitures, mais je vais pas dire du mal d'eux. Ils seront avec nous ce soir. En tout cas, les 6 qui seront sur la scène sont des gens extrêmement courageux qui ont fait des choses.
Eh bien, écoutez, c'est avec grand plaisir que je les saluerai au pot qui suivra la table ronde. Est-ce que je peux vous demander un petit service pour les auditeurs de Radio Courtoisie?
Ah, bien sûr.
Si les auditeurs de Radio Courtoisie téléphonent à Contribuables Associés et vous demandent un numéro du CRI du contribuable, est-ce que vous accepteriez de leur offrir ce numéro?
Oh ben écoutez, même avec le plus grand plaisir, même les deux derniers, le dernier comporte l'Argus parlementaire, qui est la notation de nos chers députés.
Oui.
Et puis le précédent, c'était les 8 points de notre programme. Donc,
alors puis-je vous demander pour les auditeurs, parce que nul n'est mieux placé que vous, pourriez-vous donner le numéro de téléphone de Contribuables Associés et l'adresse?
Alors, Contribuables Associés est au 42 rue des Jeuneurs, dans le 2e arrondissement, donc 75002 Paris. Le téléphone est le 01 42 21 Alors, j'allais vous donner mon numéro personnel. Oh là là, pas du tout, rien ne va plus. Le 01 42 21 16 24.
Oui.
On a aussi un site, bien évidemment. Je pense que vous avez des auditeurs qui ont Internet.
Tout à fait.
Donc, www.contribuable.org.
Mm-hmm.
Et donc, là-dessus, vous avez non seulement nos publications, l'annonce de nos rendez-vous. Donc, bah, écoutez, vos auditeurs, en tout cas, nous leur ferons parvenir avec le plus grand plaisir les cris, les deux derniers cris du contribuable. Sinon, ceux qui viendront ce soir l'auront dans le petit dossier qu'on va leur remettre.
Mais vous êtes très généreuse.
C'est la moindre des choses avec les gens qui nous soutiennent et nous aident.
Merci infiniment, Benoît, et surtout bonne soirée ce soir. J'aurai le plaisir de vous retrouver, bien évidemment, au Palais des Congrès ce soir à 18h. À très bientôt, Benoît.
Merci. Très grand merci à ce soir.
Je vous en prie, au revoir.
Au revoir, Benoît.
Au revoir, madame. Voilà, chers auditeurs, cette liaison avec Benoît Taffin pour une réunion qui me paraît intéressante et importante parce que nous observons, nous allons en parler avec mes invités, nous observons actuellement une certaine désaffection à l'égard du milieu spécifiquement politique et un retour aux problèmes, je dirais, de vie, de difficultés de vie quotidienne des Français, un retour à des problèmes de fond. Et je vais me tourner tour à tour vers Michel Junot et vers Bruno Gollnisch. Cette initiative de contribuables associés, qu'en pensez-vous? Et vous-même, est-ce que, Michel Junot, est-ce que vous avez certains axes de préoccupation, certaines préoccupations actuelles? Est-ce que vous estimez qu'il y a une véritable écoute des Français, ou bien vous estimez, au contraire, qu'il y a un fossé qui va s'agrandissant entre les problèmes que vivent les Français au quotidien et la représentation que nous avons?
Je connais bien Contribuable Associé, je pourrais dire dès son origine. Benoît Taffin a été ma collègue à l'hôtel de ville de Paris. Je connais son énergie, son courage. Et je suis heureux de voir que l'éteinte qu'il y avait autour de son association de contribuables associés se dessert quelque peu, que 6 parlementaires, nous dit-elle, seront ce soir à ses côtés. Ce que je sais, parce que je le ressens comme n'importe quel Français, même si je suis, moi, devenu un vieillard un peu sorti de toutes ces préoccupations, mes préoccupations fiscales restent d'actualité. Il est évident qu'il y a dans l'hypocrisie extravagante dans laquelle on vit, et particulièrement, hélas, la droite vit depuis qu'elle est au pouvoir. Quand je dis la droite, j'ai toujours une certaine hésitation, mais en même temps une certaine, je ne sais pas si je peux dire satisfaction, car je me souviens, il y a quand même des progrès, Michel, qui se font. Il y a 30 ans, lorsque je débutais en politique et que je disais que j'étais de droite, je provoquais stupéfaction et commisération. Maintenant, on ose être de droite. On vient de très loin, car c'est pas seulement aujourd'hui, on vient de très loin. N'oubliez pas que dès avant la guerre, André Tardieu, qui était le symbole du libéral de droite, était président du groupe des Républicains de gauche à l'Assemblée nationale. C'est dire à quel point cette marque qui remonte à la nuit des temps, à exactement un siècle, à la séparation de l'Église et de l'État, il y a eu là-dessus une intoxication qui fait que la droite était vraiment abominable. Aujourd'hui, enfin, on accepte d'être de droite, puisque j'entends même les plus éminents membres du gouvernement, candidats aux plus hautes fonctions de l'État, s'affirmer comme chef de la droite. Je m'en réjouis, tout en demandant à voir, mais enfin, je m'en réjouis.
Est-ce que ce n'est pas aussi, d'une certaine manière, un aveu d'impuissance et une volonté de draguer, entre guillemets, ceux des électeurs dont on veut les voix, mais surtout pas l'engagement politique du côté du Front National?
Mais entendu, vous connaissez, Michel, je crois, mieux que quiconque, mes positions à cet égard. Elles m'ont coûté tellement cher que je peux me permettre de...
Alors je voudrais rappeler aux auditeurs mais ils le savent que c'est Michel Genot, c'est lui et nul autre, qui a lancé ce fameux, par un article dans le Figaro, paru dans les années 83-84, le fameux « pas d'ennemi à droite », et que cette volonté affichée de Michel Genot, cette orientation, ce en quoi d'ailleurs, mathématiquement, il avait raison, puisqu'il y a 55% de voix de droite en France et 45% de voix de gauche, mais bien évidemment, prenez en compte, y compris la droite nationale, qui a toujours été exclue par les autres, et cette volonté affichée de Michel Genot lui a coûté très cher, mais il a tout perdu, fort l'honneur.
Je crois pouvoir dire que ça n'a pas tardé. 48 heures après la publication de cet article, Jacques Chirac m'avait appelé dans son bureau en me disant d'entrée de jeu, avec la cordialité qui était la sienne, « Je pense que tu es bien, que tu réalises bien que tu viens de mettre un terme à ta carrière politique. » Je lui dis, bon, en effet, la suite...
Alors, c'est ce que vous avez rappelé dans un ouvrage que vous avez publié cette année, qui s'appelle « Quand Paris aimait son maire ».
Exact.
Et où est-ce qu'on peut, où est-ce que les auditeurs, ouvrage extrêmement, que j'ai beaucoup apprécié, j'y ai pris un grand plaisir, et on retrouve, car vous avez une mémoire où vous avez pris des annotations au fil du temps, on retrouve une foultitude de détails, on retrouve tous les protagonistes de cette époque. Où est-ce qu'on peut se procurer cet ouvrage, Michel?
Aux éditions de Fallois, et je pense, chez les bons libraires, puisque vous me permettez et me sollicitez même à cet égard, mon cher, cher ami, je ferai le 15 novembre à la mairie du 16e une conférence de présentation de ce livre à 18h. C'est un livre qui n'a pas d'autre ambition que de raconter un peu comment vivait l'hôtel de ville du temps d'un maire dont je continue à dire qu'il a été un excellent maire de Paris et que il y a un mystère pour moi, c'est comment cet homme qui a été vraiment un édile remarquable peut, au point où il le fait, s'acharner à briser son image devant ceux qui ont été ses amis du début. C'est vraiment un phénomène, je dirais, psychologique, stupéfiant. Mais qu'hélas, je constate tous les jours davantage.
Alors Michel Genot, je reviendrai vers vous tout à l'heure, et en particulier, je puis, si vous me le permettez, le dire, Michel Genot vient de fêter ses 90 ans. À cette occasion, une plaquette a été éditée par sa famille qui retrace sa carrière et qui est tout à fait impressionnante, et on retrouve beaucoup de clins d'œil de différentes époques, particulièrement attachants. Mais je me tourne maintenant vers Bruno Gollnisch. J'ai évoqué en préambule les problèmes que connaissent les Français au quotidien, par le canal en particulier de contribuables associés. C'était l'amorce de mon interrogation à Michel Genot. Est-ce que, Bruno Gollnisch, vous n'avez pas le sentiment qu'avec un certain nombre de tracas qui sont provoqués actuellement, je pense notamment à tout ce qui entoure l'affaire du tabac, par exemple, ou l'affaire des automobiles, ce qui est encore un cas plus particulier, plus criant, particulièrement lorsqu'on habite ou qu'on traverse en voiture la ville de Paris, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une espèce d'insupportable pression du politique sur l'individu lambda?
Oui, d'abord je voudrais saluer Michel Genot et le féliciter pour ses 90 ans qu'il porte de façon extraordinaire, et saluer aussi le grand élu politique qu'il est. Et vous remercier, bien sûr, Michel, de cette invitation à Radio Courtoisie. J'espère que les auditeurs de Radio Courtoisie ne vont pas saturer, parce que j'avais déjà le plaisir, il y a quelques jours, d'être l'invité de Serge de Beketch. Alors, c'est vrai que Madame Daffin et beaucoup d'autres, je pense aussi au journal Les Quatre Vérités, font une œuvre extrêmement utile en essayant de provoquer un sursaut des contribuables. Il y aura toujours des impôts, s'il y a y a un État, comme le disait, je crois, Gaston Gèze, il y a des dépenses, il faut les couvrir, bon, en introduction de son cours de finances publiques. Il y aura donc toujours une fiscalité, mais il appartient aux dirigeants de faire en sorte que cette fiscalité soit la moins contraignante possible, qu'elle ne décourage pas l'épargne, qu'elle ne décourage pas l'effort, le travail, que son coût de perception soit aussi faible que possible par rapport aux rentrées, qu'elle soit juste, qu'elle soit équitable. Ça n'est pas le cas à l'heure actuelle. Il y a un caractère persécutoire de certaines formes de fiscalité. Je pense en particulier à l'impôt sur le revenu qui est devenu d'une complexité telle que certains y échappent d'ailleurs par toutes sortes de niches fiscales que les parlementaires ont cru bon d'empiler au fur et à mesure des années avec un bon sentiment qui est d'inciter les gens soit à investir, c'est pas outre-mer, soit à faire ceci plutôt que cela. Mais on arrive aujourd'hui à un système qui est extrêmement complexe, qui justifie une acquisition, qui justifie des sanctions, qui comporte une part d'arbitraire que chacun reconnaît en privé, mais que personne ne résout dans la sphère publique. Et c'est vrai que c'est un peu la même chose.
Pardonnez-moi, Bruno Bonich, pour l'avoir vécu avec vous, nous savons quelle est la faible part de la représentation nationale qui n'est pas fonctionnaire.
Eh oui, nous avons été collègues à l'Assemblée nationale et nous avons vécu cela. Nous avons aussi vécu, et je pense Michel Junot qui est notre ancien, pourrait nous en dire beaucoup à ce sujet, vécu le fait d'ailleurs que dans le budget de l'État, on ne discute que des dépenses nouvelles, c'est-à-dire
Est-ce qu'avant de créer la parité, la loi sur la parité homme-femme, qui somme toute est quelque chose d'artificiel, est-ce qu'il n'aurait pas valu mieux, déjà, pour le moins, faire en sorte qu'il n'y ait pas une majorité de fonctionnaires, c'est-à-dire de personnes issues du pouvoir exécutif, qui deviennent législateurs? Parce que comment peuvent-ils prétendre représenter ceux qui fabriquent les richesses du pays si eux-mêmes, c'est pas du tout une critique contre les fonctionnaires, mais dans ce cas-là, il faut que les choses soient claires, qu'ils quittent évidemment la fonction publique.
Je crois que c'est un vrai problème. Il est certain que, par exemple, un homme comme moi qui a été à la fois avocat et universitaire, bon, sur le plan universitaire, jusqu'à du moins une date récente, je n'ai aucune difficulté à retrouver ma fonction après la perte de notre mandat par l'effet de la modification du mode de scrutin qui avait pour but d'éliminer le groupe Front National de l'Assemblée nationale où je crois il a été extrêmement performant et actif. En revanche, pour ce qui est de l'activité d'avocat, c'était fichu. Et il en va de même d'ailleurs de tous ceux de nos collègues qui avaient des professions libérales, qu'ils fussent médecins, avocats, dentistes ou autres, pour ne pas parler des chefs d'entreprise. Et ça, c'est un vrai problème de la politique française. Ceux qui sont des travailleurs individuels, sont obligés de mettre leurs affaires entre parenthèses, et quand on les met entre parenthèses, souvent, on ne les retrouve pas à la sortie. Et c'est une des raisons certainement pour lesquelles les fonctions électives se peuplent de fonctionnaires. Quand en plus la fonction publique est issue d'une école unique, Michel Junot ne m'en voudra pas peut-être de le dire, qui sans doute, en l'occurrence l'École nationale d'administration, qui sans doute attire des gens de qualité, mais dont la formation est assez indépendante de la vocation initiale, parce que je maintiens que c'est pas pareil d'être inspecteur des finances que d'être dans la carrière diplomatique, ou d'être à la section du contentieux du Conseil d'État, ou être dans la carrière préfectorale. Je maintiens que cela requiert des aptitudes différentes, des connaissances différentes, des caractères différemment trempés. Eh bien, c'est vrai que c'est un problème. C'est vrai que c'est un problème. Alors, cette colonisation de la représentation par la haute fonction publique.
Michel Junot, on a le sentiment, mais je ne sais pas si vous le partagez, que le fossé s'agrandit entre le peuple français et sa représentation politique. Et en tous les cas, il y a une forte suspicion. J'ajoute que la multiplication des affaires, j'invitais à ce micro, voici un ou deux ans, le très regretté président André Giresse, ancien président de la Cour d'assises, qui disait que le système est structurellement corrompu. Il disait pas conjoncturellement, il disait structurellement corrompu. Et donc là, ça a évidemment rajouté un doute majeur vis-à-vis du monde politique, d'un monde politique qui a exclu de la représentation nationale une majorité de Français, si on prend en compte également ceux qui ne se sont pas exprimés par un vote. Est-ce que votre sentiment, est-ce que je me trompe lorsque je dis qu'il y a un doute majeur et qu'il y a un fossé qui s'agrandit, et comment, dans une perspective politique, vous qui avez d'une part une grande expérience, qui avez été un observateur, je le dirais, indépendant et donc honnête, non susceptible d'intérêts partisans. Quel est votre sentiment? Et si vous aviez, en regard de ce que vient de dire par exemple Bruno Gollnisch, si vous aviez quelques axes de réflexion ou de conseils à donner, quels seraient-ils?
Il est évident, et l'ancien fonctionnaire que j'ai été au début de ma
ancien
vie,
préfet.
Le dit très, très librement, que les membres de la fonction publique, depuis le niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus haut, font de la politique quand ils s'y engagent avec un parachute. Puisqu'ils savent, encore que c'est pas toujours vrai, j'en ai fait personnellement l'expérience, mais que normalement, ils retrouvent leur poste, en général avec un avancement, lorsque le suffrage universel ne leur est plus favorable. Il y a là quelque chose d'absolument anormal. Dire que le fossé s'élargit, vous avez tout à fait raison, il s'élargit. Aujourd'hui, il y a une sorte... Vous savez, néanmoins, ça vient d'il y a très longtemps. Lorsque j'étais tout jeune étudiant, avant la guerre, et tout à l'heure, je ne peux m'empêcher de saisir cette occasion, Bruno Gollnisch citait le nom de Gaston Gèze, dont j'ai été l'élève au droit. C'est le seul endroit où je l'ai connu, où j'avais un collègue, un camarade qui s'appelait François Mitterrand. Et François Mitterrand a été pris, j'y ai souvent pensé, je suis peut-être un peu un coq à l'âne, mais je trouve que la circonstance est amusante de le rappeler. La première fois où j'ai rencontré, où j'ai su qui était ce jeune garçon brillant, c'était le jour de la manifestation violente que les étudiants de droite faisaient contre Gaston Gèze. François Mitterrand menait une part importante de cette manifestation. Je ferme cette parenthèse.
C'est amusant, en effet.
Qui m'a été suggéré, si j'ose dire, par Bruno Gollnisch. Vous parliez de l'ENA et de l'esprit ENA. Je suis tout à fait respectueux de l'enseignement que l'on a à l'ENA et des qualités que cela vous donne pour le reste de votre vie. Néanmoins, vous l'avez très justement remarqué, l'ENA donne une formation uniforme, si j'ose dire. Ce n'est que par le rang de sortie que vous pouvez opter, et encore, que les tout premiers peuvent opter, que les autres prennent ce qui reste. Alors que je n'ai pas fait l'ENA, pas du tout par choix, mais simplement par une question de génération. L'ENA n'existait pas. J'ai fait Sciences Po. À Sciences Po, nous avions des sections.
Bien sûr.
Section générale, section finances publiques, section finances privées, section diplomatique.
Absolument. Dont je suis issu.
Et qui orientait l'enseignement que nous recevions et notre esprit, et ce n'était pas un esprit uniforme. Je ne nie pas qu'il y a un esprit Sciences Po, c'est vrai, je me flatte d'ailleurs de son existence, mais avec l'ENA, c'est devenu un moule.
Un formatage. Ça.
Et encore que je respecte profondément, je le répète, beaucoup d'énarques, il y a quand même cette marque qui est faite. Alors, la coupure... Mais c'est évident, dans mon premier souvenir, entre guillemets, politique, c'est le 6 février 1934. J'avais 17 ans, 16 ans. Et j'étais élève à Janson.
C'était le baptême du feu pour notre ami Frédéric Dupont, qui depuis 2 ans était élu municipal et qui a été blessé lors de cette manifestation.
Absolument. Si vous me donnez deux minutes, je peux rappeler quelque chose que, en général, stupéfie ceux à qui je le raconte. Avec deux de mes camarades de philo, directeur philo, nous sommes allés, après la classe, voir, non pas manifester, voir ce qui se passait place de la Concorde. Nous sommes arrivés vers 5 ou 6 heures du soir, il y avait beaucoup d'agitation, c'est le moins qu'on puisse dire, il y avait un autobus qui brûlait au milieu de la place, et au moment où nous arrivions, descendant les jardins des Champs-Élysées, nous avons entendu tirer, je le dis tout à fait librement, nous avons eu peur, et nous avons couru, fait le tour de la place, et nous avons grimpé le long du mur de l'orangerie pour entrer dans les Tuileries. Et là, nous avons détalé à travers le jardin des Tuileries jusqu'à ce que nous arrivions au carrousel où nous avons trouvé deux camions de bennes municipales, ville de Saint-Denis, écrit dessus, et où ceux qui accompagnaient ou conduisaient ces bennes nous ont interpellés en disant, les petits gars, venez vite par là, tenez, servez-vous, on a plein de pavés, des petits pavés pas lourds et bien en main. Cette expression m'est restée gravée. C'était les communistes.
Les communistes, bien sûr.
Mmh. C'est pour ça que quand on me raconte que le 6 février a été une opération fasciste organisée par la droite, c'est absolument faux. On a politisé par la suite cela, mais le 7 février au matin, l'humanité appelait contre les voleurs et les assassins. Ce n'est que le 9 février que grande opération politique a été montée par la gauche et l'extrême gauche. Mais ce petit souvenir que j'ai est frappant, je l'ai vécu. On nous invitait, on nous donnait les munitions même pour la manifestation. Je ferme cette parenthèse. Le 6 février, c'était quoi? C'était l'aboutissement de scandales. Scandale, oui, c'est vrai, scandale. Un homme, un nègre fin qui s'appelait Stavisky, avait soudoyé ou acheté, comme on voudra, un député auquel j'ai succédé 30 ans plus tard. C'était Gaston Bonnord, qui était député du 3e arrondissement de Paris, dont j'ai été bien des années plus tard l'élu. Bonnord était un radical, banal et sans surface particulière, et il s'était entendu avec le président du Crédit Municipal de Bayonne. Ils avaient émis des faux bons et c'était devenu une opération d'escroquerie parfaitement organisée. Bon, c'était évidemment une escroquerie, c'était évidemment scandaleux, mais enfin c'était un député et un président de Crédit Municipal. La République a failli sauter. Il y a eu une explosion d'indignation à travers le pays incroyable. Aujourd'hui, c'est tous les jours.
Absolument.
Il y a des choses de ce genre.
Au moins toutes les semaines, il y a une affaire Stavisky, oui.
Alors, ça a quelquefois, hélas, très rarement, mais quelquefois, quelques avantages d'être un vieillard qui a beaucoup vu de choses. Je ne peux pas m'empêcher de faire la constatation de l'évolution qui s'est produite et de où on en est arrivé aujourd'hui, d'une situation qui m'effraie et dans laquelle on essaie en plus de bâillonner tous ceux qui essaient de dire une, deux, trois ou quatre vérités. Et je me défends parce que je me dis que c'est parce que j'ai l'âge que j'ai trop vu, que j'ai cet appareillement. Je suis pas du tout pessimiste dans ma vie personnelle, ni dans les trucs. Mais pour mon pays, je suis hélas très pessimiste dans la dégradation que je vois se faire tous les jours. Il suffit d'ouvrir un journal. Je crois que c'est avant-hier, j'ai remarqué, samedi matin, si vous ouvriez le journal, c'était ou le Parisien ou le Figaro, je ne sais pas lequel des deux, vous lisiez en page 2, l'Iran lance un ultimatum à l'Occident et lui interdisant de soutenir Israël et annonce sa volonté ferme d'éradiquer Israël. Il n'y aura plus d'Israël. Bon. Israël, ça veut dire, d'abord, quand on parle de racisme, je trouve que c'est assez remarquable. D'autre part, c'est un danger de conflit international extraordinaire. En même temps, vous lisez deux pages plus loin, l'Europe désarmée face à la misère africaine. Et c'est le problème de l'immigration. Tout cela, ce sont des problèmes dramatiques. Je ne vois pas comment les gouvernements, depuis ces dernières années, osent prendre des mesures à cet égard. Le président de la République semble n'avoir qu'un but, c'est de faire le contraire de ce que ses électeurs ont souhaité. Et les médias ne font qu'ajouter. Et je termine en m'excusant auprès de Bruno Gollnisch
d'avoir
tenu le crachoir aussi longtemps. Le rôle des médias, à l'exception de Radio Courtoisie, mais c'est une exception rarissime, et hélas, pas suffisamment répandu, ne font qu'envenimer les choses. Non pas qu'ils dénoncent les scandales les plus, mais ils attisent. Hier soir, sur les chaînes de télévision, on vous disait partout, « Ah, c'est l'anniversaire des émeutes, la semaine
Exactement.
Prochaine des banlieues, etc. »
Exactement.
Ce qui n'est pas, ce qui est le meilleur moyen d'exciter
Bien sûr.
Les... ceux qui ont écrit, on me racontait, un commissaire de police me racontait, il y a quelques mois, que l'année dernière, au moment des émeutes, lorsqu'une chaîne de radio, de télévision, publiait, montrait ce qui s'était passé dans telle cité, les habitants de la cité voisine ou de la cité à quelques kilomètres disaient « Ben et nous, alors on ne nous voit pas,
bien sûr.
Et on rajoutait. »
Il y a une émulation.
Il y a une émulation,
sûr.
C'est tout de même extravagant. Mmh. Excusez-moi d'avoir été...
Mais je vous en prie, Michel, et puis si j'ai d'ailleurs pris la décision de vous inviter à... Je vous remercie d'avoir accepté avec Bruno Gollnisch, c'est précisément parce que vous nous offrez un panorama d'une expérience que vous avez vécue et vous en avez tiré quand même un enseignement. Et cet enseignement, comme vous n'êtes pas un homme de la langue de bois, vous l'exprimez et je vous en sais gré. Bruno Gollnisch, préoccupation faussée entre le français lambda et la représentation politique, d'une part. D'autre part, désordres internationaux évoqués à l'instant par notre ami Michel Junot. Troisièmement également, évoqué par Michel Junot, l'apparition d'un autre pouvoir, qui est le pouvoir médiatique, qui est étroitement lié à ce qu'on peut appeler la police de la pensée. Qu'est-ce que vous inspire un peu cet ensemble? Cette espèce de capharnaüm, télescopage.
Je crois que au cours des minutes qui viennent de s'écouler, Michel Junot a dit deux choses importantes. Une qui est effectivement un constat positif, et il a bien fait de le souligner, c'est que pour la première fois, enfin, dans l'histoire de France, récente du moins, on accepte de se dire à droite. Alors, je vais dire tout de suite, moi, je pense que si on acceptait de faire une politique de droite, ce serait encore mieux.
Ouais, c'est sûr.
Évidemment. Parce que, mais quand même, c'est vrai que c'est très important. Je crois d'ailleurs que notre combat, celui de Jean-Marie Le Pen, le mien, celui de beaucoup d'autres, de nos collègues, mon cher Michel, au Palais Bourbon et dans la presse et dans tout le pays que nous avons sillonné, il est pour quelque chose. C'est vrai que cette concurrence que nous avons suscitée fait que, après tout, l'hypocrisie étant un hommage que le vice rend à la vertu, un certain nombre de dirigeants qui étaient jusqu'à présent élus avec des voix de droite et qui n'avaient qu'un seul souci, c'était de faire une politique au moins de centre-gauche, pour essayer de grappiller des voix sur leur gauche, maintenant sont sensibles au fait qu'il y a un intérêt à se dire de droite. Et je pense que nous avons contesté durablement le monopole moral abusif que la gauche se réservait dans le pays, la gauche et l'extrême gauche. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous sommes haïs et diabolisés, car la diabolisation a toujours été la réponse de la gauche à ce genre de situation. Quand on conteste son magistère moral qu'elle s'est abusivement attribué, eh bien, autrefois, elle traitait les gens de réactionnaires, par exemple, au XIXe siècle, ensuite de fascistes, enfin, aujourd'hui de racistes, d'antisémites, de xénophobes, que sais-je encore. Mais quand même, il reste que ce magistère moral a été entamé et il importe que nous continuions à le contester. En revanche, Michel Junot a fait part aussi d'une autre évolution de l'esprit public, à l'occasion justement de son évocation de l'affaire Stavisky. C'est quand même que les facultés d'indignation du peuple français s'émoussent. Il y a cette espèce de résignation, ce bof, ils sont tous pareils, etc., etc., qui conduit les gens à se détacher des urnes. Et ça, c'est extrêmement préoccupant, parce que si les Français ne votent plus, d'autres voteront à leur place, que l'on fait venir à cet effet. Et quand on voit effectivement qu'un scandale, somme toute mineure, on peut le dire, comme l'affaire Stavisky, même si ça compromettait les personnalités politiques, mais Michel Junot l'a très bien dit, c'était une escroquerie montée avec la participation de quelques, ou la complaisance de quelques personnalités politiques sur le crédit municipal de Bayonne. Quand on a vu quand même l'affaire, plus récemment, l'affaire du Crédit Lyonnais, quand on a vu à quelles affaires de corruption avaient participé des groupes comme la Lyonnaise des Eaux ou la Générale des Eaux, quand on a vu l'affaire Urba Graco, Sagesse, la mise en coupe réglée par le Parti Socialiste et par le Parti Communiste avec le GIFCO, au moyen de cabinets d'études dont les prestations étaient plus ou moins fictives, mise en coupe réglée de toutes les collectivités locales qu'il contrôlait, je dois dire que l'absence, et je m'en excuse quand même pour Michel Junot et pour ses amitiés politiques, c'est que c'est un homme fidèle en amitié, mais enfin quand même les affaires de la ville de Paris et surtout l'affaire des lycées d'Île-de-France, quand on voit le peu de réactions que ça suscite, il y a de quoi être effectivement préoccupé.
Sur ce dernier point, si vous permettez, je le notais pas donc avant que vous y arriviez. C'est tout de même assez extraordinaire, il faut reconnaître ce qui était arrivé. Je persiste à penser que la gestion municipale de la ville de Paris par Jacques Chirac a été excellente et qu'elle est globalement très positive. Mais l'affaire à laquelle vous faites allusion, l'affaire des lycées ou des ascenseurs HLM, c'est tout de même l'organisation, tout parti confondu, sauf le Front National, qui n'avait hélas aucun représentant à l'hôtel de ville.
Non, mais ça a également touché la région Île-de-France, et moi-même j'ai été interrogé pendant 4 heures par la brigade financière rue du Château des Rentiers à Paris, puisque j'étais membre de la commission d'appel d'offres. Mais il est évident que le policier qui m'a interrogé, l'inspecteur, savait très bien que nous étions la seule formation à n'avoir pas touché. C'est même nous qui avions dénoncé cette affaire au conseil régional.
En particulier Emerdinger,
Robert Emerdinger. Et donc, il y avait un partage sur tous les autres formations.
C'est incroyable, ça avait été organisé par un très grand honnête homme, je le dis d'une façon absolument pas ironique, et qui est le bouc émissaire de cette affaire, qui était le directeur de cabinet de Chirac, qui est encore poursuivi actuellement, qui lui a exécuté des
ordres. Michel Roussin, oui.
Michel Roussin de répartition, et qui est la victime de cette affaire. Mais c'est inouï de penser, je l'avais dit à l'époque d'ailleurs, que les groupes s'étaient organisés de façon à se répartir.
Voilà, mes chers amis, je vais donner la parole une seconde à Bénédicte, et puis nous allons écouter un Bobino sur le prochain grand déjeuner de Radio Courtoisie. Bénédicte, à vous la parole.
Oui, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Michel de Rostelant. Ses invités sont M. Bruno Gollnisch, député européen, délégué national du Front National. M. Michel Junot, préfet honoraire, ancien député, président d'honneur du CNI.
Alors, vous allez écouter maintenant un Bobino, parce que vous savez que nous avons cette tradition du grand déjeuner d'anniversaire de la création de Radio Courtoisie.
Le 12 novembre, nous célébrerons le 19e anniversaire de Radio Courtoisie. Nous fêterons ensemble la langue française. Dimanche 12 novembre, si vous êtes adhérent de notre association, venez déjeuner avec nous à la Maison de la Mutualité. Nous élirons le lauréat du prix Daudet. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 50 euros par couvert à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée pour recevoir vos billets d'entrée. Au dimanche 12 novembre, à midi, pour déjeuner ensemble à la Mutualité et décerner le prix Daudet 2006, 19e anniversaire de Radio Courtoisie.
Chers auditeurs, je vais profiter de cette césure pour vous apporter quelques informations sur les activités à venir, ce grand déjeuner le 12 novembre, mais je me retourne vers Bruno Gollnisch. Il y a également les 10, 11 et 12 novembre, la fête des Bleus, Blancs, Rouges.
Absolument,
quelques
au Bourget.
Quelques informations à ce sujet.
Au Bourget, vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 novembre. Je pense que ceux qui sont intéressés, bien sûr, tous ceux qui se reconnaissent dans le Front National, mais même les curieux, ceux qui veulent en connaître un peu plus, serait-ce même d'ailleurs ceux qui ont encore quelques réticences et qui veulent avoir une vue plus exacte de notre famille d'esprit, ben, sont cordialement les bienvenus. Vendredi, samedi, dimanche au Bourget, dimanche grand discours, dimanche après-midi grand discours de Jean-Marie Le Pen. Il y aura des forums sur les sujets les plus divers, de politique intérieure, de politique étrangère, stand de notre coordination des droites européennes avec participation de nos amis, par exemple, flamands, autrichiens, italiens et autres. Animation par nos principaux responsables et les membres de la cellule de campagne d'un certain nombre d'ateliers. Présentation par les comités d'action présidentielle de leurs conclusions. Je suggère à nos amis de la région parisienne d'être présents, c'est très important, dès le vendredi à 14h, à l'ouverture des portes, donc au salon du Bourget.
Je confirme donc qu'il est tout à fait possible d'être à la fois au déjeuner de Radio Courtoisie du dimanche et de participer par ailleurs, soit le même jour, soit la veille, soit l'avant-veille, à telle ou telle partie de cette fête des Bleus, Blancs, Rouges. Autre activité annoncée, j'ai évoqué tout à l'heure avec Benoît Taffin ces assises ce soir de contribuables aux associés, un grand moment puisqu'on attend plus de 3000 personnes, plus de 3000 participants. Je vais vous parler un petit peu de ce qui m'est cher puisque je l'anime des activités du Cercle Renaissance. C'est le mercredi 6 décembre prochain que nous recevrons pour le grand dîner de rentrée son Excellence Monsieur Alexandre Avdeyev, qui est ambassadeur de Russie en France. Il avait d'ailleurs été invité à ce micro de Radio Courtoisie récemment par mon collègue Roger Saboureau. Le thème sera l'actualité du retour de la Grande Russie et son intervention. L'intervention de l'ambassadeur de Russie sera complétée par des interventions de François-Georges Dreyfus, professeur émérite à la Sorbonne, patron d'émission Radio Courtoisie, Pierre Hillard, historien chargé de cours, et le prince Constantin Mourouzi, qui préside l'Association européenne de Saint-Vladimir. Je vous signale, chers auditeurs, que le mercredi 20 décembre, le Cercle Renaissance remettra le prix Renaissance de poésie. Ce prix est passé sous l'autorité de Daniel Ancelet, qui est patron d'émission à Radio Courtoisie, et qui est ancien lauréat de ce prix de poésie. Et nous remettrons le prix Renaissance de poésie 2006 à Pierre Blondel pour l'ensemble de son œuvre. Ce sera le mercredi 20 décembre, mais vous pouvez prendre les renseignements sur le site internet du Cercle Renaissance, cerclerenaissance.info, ou bien en écrivant au Cercle Renaissance, 138 rue de Tocqueville, Paris 17e, 138 rue de Tocqueville, Paris 17e, téléphone 01 42 27 48 22. Et puis, puisque je suis sur cette lancée, je vais vous annoncer en toute première le fait que le prix Renaissance 2007, le prix littéraire, sera décerné à Dominique Venner. Dominique Venner, le mercredi 7 février prochain, pour son ouvrage Le siècle de 1914, Utopie, guerres et révolutions en Europe au XXe siècle. Dominique Venner, dont nous saluons l'action à la tête de cette remarquable NRH, précédemment Nouvelle Revue d'Histoire, qu'il anime avec compétence et avec la participation de grands talents. Donc voici pour ces quelques évocations d'activité, et nous allons reprendre la suite de notre conversation avec Michel Junot et Bruno Gollnisch. Bénédicte, pouvez-vous nous donner lecture de 3 ou 4 messages par bloc, et puis mes invités vont y répondre.
Un auditeur, hier soir sur FR3, Christine Ockrent, qui recevait des gens d'extrême gauche, leur a laissé donner blog et site internet. Or, quand Jean-Marie Le Pen est invité, ce qui est rare, Madame Ockrent se refuse à ce qu'il appelle un rassemblement dans le cadre de son émission. Deuxième question du même auditeur, que pense Monsieur Gollnisch de l'impôt obligatoire, redevance télé, France Télévisions et Radio France, bannissant les nationaux ? Un autre auditeur, les contribuables mêmes associés applaudissant les députés, c'est comme si les bœufs applaudissaient le boucher. Un autre auditeur, Monsieur Junot ne s'explique pas l'attitude de Monsieur Chirac en politique. C'est pourtant simple, homme d'ambition sans conviction, il était le candidat idéal pour les lobbies qui détruisent la France.
Qui souhaite répondre ? Michel Junot ?
Oui, si vous voulez, par la dernière question concernant Jacques Chirac. Je confesse que j'ai été envoûté par Jacques Chirac lorsque je l'ai rencontré en 1977. Sa chaleur, son contact personnel, sa cordialité et sa simplicité m'ont conquise. J'ai fait partie de son équipe à l'Hôtel de Ville, comme médiateur, c'était un rôle tout à fait particulier, qu'il avait voulu. Et je continue à penser qu'il a été un remarquable maire de Paris. Pendant sa présence à la mairie de Paris, à la tête de la mairie de Paris, la politique, évidemment, a commencé à jouer son rôle et très vite, je me suis aperçu que politiquement, je n'étais pas du tout sur la même longueur d'onde que lui. Je ne voudrais pas être long, je vais être aussi bref que possible, mais je considère comme significatif tout de même de raconter comment je suis devenu son ami, entre guillemets. C'était au banquet il y avait 4 ans que j'étais déjà son adjoint, un de ses adjoints, puis il y a eu le banquet de l'association des Limousins de Paris, dont évidemment Jacques Chirac était l'invité d'honneur, mais auquel j'assistais parce que la moitié de ma famille est limousine, ma mère est née à Tulle, et mon grand-père avait été, il y a fort longtemps, je ne l'ai jamais connu.
Vous avez une limousine en face de vous, Michel Junot.
Député et maire de Tulle, avant la guerre de 14, je ne l'ai jamais connu. J'étais donc à ce dîner, Chirac, qui s'ennuyait manifestement d'un côté de la table, me voit un peu plus loin, lève les yeux, me fait un signe et me dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Je lui réponds ce que je viens de vous dire. « Ah bon ?» À partir de ce moment-là, pendant le dîner, il a essayé en travers de la table de me parler le plus possible. Et puis en partant, au moment où nous prenions nos manteaux, au vestiaire, il s'est approché de moi, il m'a dit « Le grand-père, il était radical ». Et je lui ai dit « Oui, 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 je ne peux pas nier, il était radical ». Il m'a tapé sur l'épaule en me disant « Bon, on se tutoie ». Même assez significatif, je devenais tout d'un coup quelqu'un de plus proche. Mais je crains que Chirac, hélas, ça aille beaucoup plus loin que ça. Et je répugne à brûler ce que j'ai sinon adoré, tout au moins beaucoup apprécié. Je considère, et un homme qui a été son plus proche collaborateur pendant 5 ans, et qui l'a quitté pour cela, Chirac semble n'avoir d'autre objectif que de faire le contraire de ce pourquoi les électeurs l'ont élu. C'est absolument extraordinaire au point où il le pousse. Ensuite, il m'a dit, bien des fois, quand j'étais encore avec lui jusqu'en 95, pourquoi es-tu si réactionnaire ? Je lui disais, parce que je suis un de tes électeurs. Tes électeurs pensent comme moi. C'est toi qui les trahis par ton attitude politique. C'est stupéfiant. C'est pas un manque de courage, il est très courageux. C'est une... Je ne comprends vraiment pas. un mot pour terminer sur ses relations à l'égard du Front National, question que je n'ai jamais réglée. Quand j'ai écrit l'article « Pas d'ennemis à droite », il m'a appelé aussitôt, je l'ai dit tout à l'heure, en me disant je pense que tu comprends bien que ta carrière politique, que tu mets un terme volontairement à ta carrière politique. Mais pourtant, 3 ans avant, le 11 novembre à Place de l'Étoile, je l'accompagnais à la cérémonie traditionnelle. On attendait le président de la République qui, comme à son habitude, était en retard. Et donc on a bavardé quelques minutes. C'était très peu de temps après l'élection municipale de Dreux, seul oui. cas, je crois,
tout à fait.
Où il y a eu une liste commune pour battre les socialistes entre le RPR et le Front National. Je lui ai dit, tu as vu les résultats de Dreux, c'est tout de même important, c'est intéressant, je crois que tu devrais tenir compte de l'existence du Front National. Il ne m'a pas jeté, il n'a pas poussé des cris affreux, il m'a dit, tu crois ? Je lui ai dit, oui, je pense, faut pas. Bon, là-dessus, le président est arrivé, la conversation a été terminée, il m'a dit, nous en parlerons. 3 jours après, il m'appelle en effet, me demande de descendre à son bureau. Il y avait là Toubon et Ponce. Et Chirac, très calme, rapporte notre conversation. Et Toubon me dit, mais enfin, tu es complètement fou, un homme comme toi, tu devrais avoir de l'expérience, déjà. Le Front National... Bon, c'est un feu de paille, une circonstance, ils retomberont à 0,5% des voix avant la fin de l'année. Et Chirac me dit, oui, tu vois, mais c'était tout. Or, lorsque, 2 ans plus tard, Pandreau, je le dis et je le cite très librement, m'a proposé un jour d'aller prendre un verre chez Jacques Chirac à l'appartement, le soir, pour lui parler de Le Pen et pour lui dire que c'était ridicule d'avoir une position telle, car c'est ce que pensait Pandreau à l'époque, j'ai dit à Pandreau, bon, enfin moi je veux bien, mais je... et nous nous sommes fait jeter, mais alors, violemment, avec une violence extraordinaire, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui l'a mis à ça? C'est pour moi une question sans réponse, mais j'ai vécu. Or, maintenant, et je conclue là-dessus, Jacques Chirac, c'est vrai, semble n'avoir d'autre but que de mener une politique opposée à celle pour laquelle il a été élu. C'est tout de même assez triste.
Bruno Gollnisch, quelle que soit de réponse aux auditeurs.
Oui, je remercie l'auditeur qui me signale effectivement ce que je n'avais pas vu la totalité de l'émission. Madame O'Krent, plus complaisante pour la gauche qu'elle ne l'est pour Jean-Marie Le Pen, elle n'est pas le seul dans ce cas-là, je dois dire à sa décharge. Bon, ça fait partie régulièrement des entretiens que j'ai avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Vox clamantis in deserto. C'est moi qui crie dans le désert, mais bon. Mais je crois effectivement que ça fait partie des éléments que je le signalerai à Jean-Marie Le Pen qui était de retour de Vendée où ça s'est très bien passé et qui je pense n'a peut-être pas vu l'émission de telle façon que la prochaine fois qu'on lui oppose cette réponse eh bien il sache quoi répliquer. Je n'avais pas beaucoup d'inquiétude à ce sujet. En ce qui concerne la redevance, je considère que cet impôt se justifiait quand d'abord il y avait 3 chaînes de services publics. Maintenant, il y en a une qui est privatisée, c'est TF1. Deuxièmement, si les chaînes du service public ne faisaient pas appel à la publicité, or maintenant elles font appel à la publicité, et troisièmement, s'il s'agit d'une redevance pour le service public, comme j'ai eu un jour, puisque j'ai un jour refusé de payer la redevance, et comme je l'ai dit d'ailleurs à l'inspecteur des impôts tout à fait charmant, qui était chargé de recouvrer malgré tout cette somme et de bloquer mon compte en banque, je lui ai dit que la troisième condition de la légitimité, ce serait que, à ce moment-là, les acteurs du service public que sont les journalistes du service public soient payés au tarif du service public. Oui. C'est-à-dire que l'animateur, le journaliste soit payé ce qui est payé un chirurgien des hôpitaux, ce qui est payé un professeur d'université, c'est déjà pas mal, oui. Ce qui est payé un administrateur civil, mais pas au-delà. Quand ils sont, pour certains d'entre eux, car beaucoup ont des revenus modestes, mais pour certains d'entre eux qui sont payés 5, 6, 7, 8 fois, que quand ça se sait, précisément, à ce moment-là, d'ailleurs, la gauche prend leur défense. Je vous rappelle que, puisqu'on parle de Mme Ogred, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, quand le montant très important de ses revenus a été dévoilé, François Mitterrand a dit il faut bien honorer le mérite. N'est-ce pas ? C'est, la gauche devient élitiste dans ces cas-là. Quand il s'agit. Mais quand même de personnes qui lui sont proches. Alors voilà, je pense que autrement cet impôt fait problème pour ces triples raisons. Juste un mot encore. Ceci étant, il a fallu des années si tant est que cet impôt soit justifié. Je viens d'expliquer pour quelles raisons on pouvait le remettre en cause. Mais si tant est qu'il soit justifié, la possibilité que l'on a aujourd'hui de le recouvrer d'une façon plus simple. Plutôt que ces inquisitions ou ces perquisitions qu'on effectuait chez les particuliers, bon, de le fondre dans la taxe d'habitation, puis de cocher la case pour ceux qui déclarent ne pas en avoir, ben, il a fallu qu'on attende des années pour trouver cette simplification, ça en dit long aussi.
Alors, le prix pour les BBR, la participation pour les BBR,
oui, alors on demande de préciser, effectivement, j'aurais dû le faire, que le billet d'entrée pour les bleus, blancs, rouges était de 5 euros, qui donne droit à entrer les 3 jours. Donc on n'a pas à payer 5 euros par jour. Une réponse très brève sur la personne qui dit faire parler des députés sur la fiscalité, ce sont des bœufs qui s'adressent au boucher. Je suis assez d'accord. Ceci étant, il y a des députés qui sont moins mauvais que d'autres. J'essaie d'en être. Je me bats en particulier au Parlement européen contre l'instauration d'un impôt européen qui est absolument programmé, qui est dans les tuyaux. J'ai quand même un certain nombre de collègues autour de moi. Je crois que Mme Taffin a raison dans son rôle de faire intervenir des députés. Je lui suggérerais de faire intervenir aussi des députés européens, puisqu'il y a maintenant une fiscalité européenne et ceux qui luttent contre l'augmentation indéfinie des dépenses publiques, parce que c'est ça qui crée l'augmentation de la fiscalité. Voilà ce que je voulais dire sur ces sujets.
Alors, pendant vos réponses, chers amis, les messages affluent et je vais demander à Bénédicte d'en lire un plus grand nombre. Vous notez éventuellement ceux des messages auxquels vous souhaitez répondre, mais vous en lisez au moins 5 à la fois.
Un auditeur. Les jeunes Corses ont été condamnés pour attentats racistes, mais moins que Michel Lajoie. Parlez-nous-en, Monsieur Gollnisch. Merci. Un autre auditeur. Tant que des jeunes dits de droite s'ingénieront à faire des scrutins qui éliminent une partie de l'électorat, on ne s'en sortira pas. Il faut rétablir la proportionnelle.
Sûrement.
Un autre auditeur. Dans le temps, les fonctionnaires n'étaient pas éligibles, sous le prétexte tout à fait juste que l'on ne peut être juge et parti. Trouvez-vous normal que ces mêmes fonctionnaires bénéficient de leur retraite de fonctionnaire pendant la période de leur mandat, celle-ci venant s'ajouter à leur retraite attachée à ce même mandat ? Monsieur Junot, un auditeur pour vous. Ai-je bien compris vos propos relatifs à votre condisciple ? Je croyais que Mitterrand avait été élève chez les Gèzes, mais pas élève de Gaston Gèze. Qui est-ce ? Merci.
Peut-être voulez-vous répondre à cette question.
Hein, oui, je crois que je n'avais jamais pensé, je dois dire, à cette homonymie, ou plutôt cette... Non, l'un n'exclut pas l'autre.
Absolument.
François Mitterrand a fait ses études secondaires, en effet,
chez les Jésuites.
Et il a été, lors de ses études universitaires à la faculté de droit de Paris, un des élèves de Gaston Gèze. Il n'y a aucune contradiction. Quant aux retraites des fonctionnaires, il est tout à fait scandaleux, je suis le premier à le dire, que les retraites se cumulent lorsqu'un fonctionnaire est élu. Sa retraite son droit à la retraite pendant cette période-là en tant que fonctionnaire devait être suspendu.
Mais je crois que c'est le cas, excusez-moi. Je crois que c'est le cas. Je crois que le fonctionnaire qui est élu est placé en situation de détachement et à ce moment-là, il cotise aux caisses de l'Assemblée nationale comme n'importe quel parlementaire.
Mais il continue lors de l'établissement des services au moment de la prise de retraite. Il n'y a pas rupture de la période pendant laquelle vous avez été.
Ah ben vous me l'apprenez alors là.
En tout cas, ce n'était pas le cas.
Ah bon. Ben, si c'est ça, c'est tout à fait anormal.
Quant à la proportionnelle, mille fois d'accord, il est scandaleux et j'en profite pour dire que si on parvient par de manœuvres diverses ou autres à empêcher Jean-Marie Le Pen d'obtenir ces 500 signatures, ça sera un scandale démocratique à nul autre pareil. Je ne dis pas ça par esprit partisan, je trouverais que c'est exactement pareil si à l'extrême gauche, on empêchait, mais à l'extrême gauche, on trouvera toujours des gens pour voter, on ne trouvera pas ça scandaleux. Tandis qu'à droite, on terrorise les malheureux maires qui vont donner, sans pour autant adhérer, car ce n'est pas ça, ils donnent simplement l'occasion de s'exprimer. Je ne peux pas croire que l'on assistera à un pareil déni de démocratie. Hélas, je sais que certains s'y emploient.
Bruno Gollnisch, quelques réponses? Non, je crois qu'on a fait le tour.
Oui, une réponse sur Michel Lajoie, peut-être.
Oui, très brièvement, puisque nous avons encore...
Très brièvement, puisque j'ai une question sur ce sujet. Michel Lajoie est un garçon qui a fait quelque chose de mal. Bon, il a mis une bombe, en fait, un pétard mouillé, qui n'a non seulement tué personne, heureusement, ni blessé personne, mais même fait aucun dégât matériel, dans un café fréquenté par des immigrés. Vraisemblablement, d'ailleurs, incité à cela par des indicateurs de police. Dans la foulée de l'affaire de Carpentras, qui a suscité une certaine émotion, il a été condamné à la perpétuité. À la perpétuité. Ceci à l'âge de 20 ans. Bon. Je suis pour que l'on condamne, que les choses soient claires, les gens qui posent des bombes. Ceci étant, je suis frappé de la disproportion qui existe, de la disproportion qui existe entre ce que font certains incendiaires, par exemple dans les émeutes dont nous parlions tout à l'heure, ou même certains terroristes, et ce garçon qui, primo délinquant, si l'on peut dire, à l'âge de 20 ans, qui est condamné à la perpétuité. Il a passé, je crois, 18 ans en prison. Sa libération conditionnelle a été refusée au motif que par la première juge et aussi en appel pour le motif ahurissant que s'il était libéré, l'endroit où ceux qui se portent garants pour eux proposent qu'il aille habiter est un endroit fréquenté par des immigrés. Et aussi sur l'opposition de la LICRA, de M. Gobert, parce que comme il n'y a pas de victime dans cette affaire, il n'y a pas de parti civil. Mais comme on avait retenu la circonstance aggravante de raciste, les partis civils, ce sont les associations prétendues antiracistes. Donc M. Gobert et la LICRA se sont opposés à la mise en liberté conditionnelle de ce garçon condamné à 20 ans et qui vient de passer 18 ans dans la centrale de Clairvaux. Je considère que ces décisions sont des décisions absolument iniques au regard de la jurisprudence et par conséquent, je suis de ceux qui demandent la libération de Michel Lajoie et qui vont déposer un recours en grâce auprès du président de la République et aussi, j'en appelle à mon ancien condisciple, peut-être lui rappellera, y a-t-il des auditeurs qui le connaissent et qui lui rappelleront cela, Pascal Clément, pour qu'il mérite bien son nom pour une fois, c'est-à-dire qu'il se porte en faveur d'un geste de clémence de la part du chef de l'État et je trouve absolument inadmissible le comportement de magistrats qui appliquent à cette occasion une jurisprudence d'une sévérité qui ne serait justifiée que si l'on trouve la même sévérité à l'encontre des mêmes délinquants.
Alors, devant ce cas très particulier, je pense que les auditeurs pardonneront à Bruno de cette étendue assez longuement, parce que nous avons énormément de messages.
J'essaierai d'être plus bref.
À vous, Bélie.
Un auditeur, de grâce, n'employez plus le terme « peuple français », mais « population française ». Vous vous rassurez seulement.
Ben, il y a quand même un peuple français, et c'est celui que nous essayons de défendre, mais c'est vrai qu'il y a des populations non françaises qui occupent son territoire.
Félicitations à Michel Junot d'avoir rétabli la vérité sur le 6 février 1934.
Oui.
Les communistes sont par essence menteurs et assassins. Un autre auditeur, c'est un peu fort d'entendre sur Radio Courtoisie que la gestion de la mairie de Paris a été positive. Que M. Junot précise à nouveau quelle année il s'est trouvé place de la Concorde à une manifestation.
6 février 1934.
Autre question, Bénédicte.
Pouvez-vous annoncer que la conférence avec Marie-Christine Giraud...
Non, avec Henri-Christian Giraud sur Budapest au Centre Saint-Paul le jeudi 26 octobre est annulée. Voilà, chers auditeurs, vous qui aviez envisagé d'aller à cette conférence, elle est annulée. Mais nous dirons peut-être un petit mot d'ici quelques 10 minutes sur Budapest.
Monsieur Junot, la France n'a pas d'ennemis, sauf son président. Bonne émission. Un autre éditeur, le plus gros scandale, c'est celui des 800 millions de l'affaire de Taïwan payés par le gouvernement. Les juges ont enterré le dossier. Cette affaire avait été annoncée sur RTL un matin de bonne heure et pas répétée après. Messieurs, vous dites que les salaires des journalistes publics sont 6 à 7 fois supérieurs à aux des fonctionnaires.
Certains.
À certains des fonctionnaires.
Certains journalistes.
Je pense que vous ignorez la réalité. Il y a 10 ans déjà, le sénateur Cluzel relevait les salaires de ces messieurs. La moins payée était Mireille Dumas, avec 6 millions de francs par an. Le mieux payé était Jean-Luc Delarue, avec 48,4 millions par an, soit presque 1 million par semaine, auquel s'ajoutait la rémunération de sa maison de production fournisseur d'Antenne 2.
Oui, c'est exact d'ailleurs. Oui, en disant 6 ou 7, j'ai été très
modeste,
oui.
Monsieur Gollnisch parlait de magistère moral de la gauche et pour le moins paradoxal. Et je suis poli. Il faudrait plutôt parler de magistère immoral.
Non mais, oui, bien sûr. J'ai dit le magistère moral que la gauche s'est abusivement attribué. Donc je crois que c'est clair, mais c'est vrai que la gauche régnait en maîtresse des élégances, s'arrogeait le droit de dire le juste et l'injuste, s'accordait le monopole du cœur. Ça c'est une des rares bonnes choses que Giscard ait dites, vous n'avez pas le monopole du cœur. Bon, voilà, et c'est vrai qu'elle exerçait ce magistère parce qu'on le lui reconnaissait à droite, et que maintenant c'est quand même un peu contesté. Heureusement, je suis d'avis de l'avis de cet éditeur.
Michel Junot, Bruno Gollnisch, est-ce que ces différentes questions vous paraissent devoir être développées par vous-même sur tel ou tel aspect ?
Non, je pense que j'ai été pour ma part beaucoup trop long et je m'en excuse auprès des auditeurs.
Et vous nous avez même offert la primeur d'informations particulièrement...
très ancienne.
Non, mais qui touche à l'histoire.
Oui.
Intéressante. Très intéressante.
Cela dit, puisque cette émission va se terminer, je voudrais pour ma part et en un mot...
Nous avons encore 10 minutes.
L'émotion que je ressens à me retrouver pour la première fois dans ces locaux sans la présence de Jean Ferré.
Je rappelle que vous étiez son voisin à son stand pour la signature de votre livre lors de la fête de la Courtoisie au mois de mai dernier. Vous étiez à droite de Jean Ferré pour cette signature et je vois devant moi dans le studio une photo de Jean Ferré qui a été prise lorsqu'il était à côté de vous lors de cette fête de la Courtoisie.
Ah oui, je connaissais Jean Ferré depuis l'époque héroïque de
Radio Solidarité.
Bien avant. Depuis, c'est-à-dire le premier News Magazine, c'est lui qui avait essayé de le faire.
Ah oui.
En 1956. 55 ou 56. C'était la formule exacte.
Il faut d'ailleurs remercier le Figaro Magazine qui, sous la plume de Jean Sevilla, a rendu hommage à Jean Ferré. Je me permets de m'étonner que le Figaro Quotidien, qui généralement réserve une rubrique au titre « Disparition », ait omis Jean Ferré. Si Jean Sevilla, qui ne peut intervenir que dans le cadre du Figaro Magazine, a rattrapé cette bévue, mais ça n'était limité qu'à seulement Figaro Magazine. Bruno Gollnisch.
Oui, sur Jean Ferret, je ne voudrais pas redire ce que j'ai dit la semaine dernière et ce qu'a dit également Jean-Marie Le Pen. Nous saluons la mémoire de celui qui a réussi à créer un espace de liberté précisément pour les idées et les convictions qui nous sont communes. Monsieur Junot et moi-même n'avons peut-être pas la même appréciation du rôle de Jacques Chirac, encore que Monsieur Junot ait pris la précaution justement d'expliquer la disparité qu'il y avait eu entre une gestion municipale d'une part et puis son action à la tête de l'État, mais nous nous retrouvons en tout état de cause sur un certain nombre de valeurs communes, et ce qui nous rassemble est beaucoup plus important que ce qui peut nous séparer. Voilà, ça, je crois que c'est très important.
Et puisque nous parlons des mémoires.
Et M. Ferret a réussi à donner un espace de liberté d'expression à toutes ces sensibilités de la famille nationale, c'est très important.
Et puisque nous parlons de mémoire, 2006, quel anniversaire?
Ben évidemment, je pense à l'anniversaire de Budapest, pour moi, étant enfant, fut un de mes premiers souvenirs politiques. Et j'étais extrêmement jeune, j'avais à peine 7 ans au moment des événements, proprement dit, mais je me souviens avoir entendu mes grands-parents en parler, et puis je me souviens aussi après, à la bibliothèque municipale, quand j'avais 14-15 ans, avoir feuilleté les exemplaires de matchs de cette époque, et cet extraordinaire soulèvement du peuple hongrois, abandonné à lui-même, abandonné par les Occidentaux, abandonné par les États-Unis d'Amérique quand même, il faut le dire, qui ont préféré, alors ils ne pouvaient pas risquer sans doute une guerre avec l'Union soviétique, mais qui ont préféré conseiller aux Français et aux Anglais, ou leur ordonner pratiquement de se retirer de Suez. Je pense à ce moment-là, je m'étais vraiment beaucoup intéressé à l'histoire de la Hongrie, de la couronne de Saint-Étienne, du sort du cardinal Mitzenti, qui a été aussi un martyr de l'Église et peut-être même un peu aussi un martyr par l'Église. Cardinal Mitzenti, dont j'avais lu les mémoires chez ma grand-mère paternelle. Et ce qu'il y a de terrible aujourd'hui, c'est qu'on célèbre cet événement qu'on n'apprend pratiquement pas dans les écoles, où pourtant l'histoire contemporaine est au programme. Est-ce que vous avez remarqué l'extraordinaire discrétion?
Sauf le dernier numéro du Spectacle du Monde.
Ah oui, mais ça c'est l'exception qui confirme la règle dans la presse française, bien sûr, le Spectacle du Monde, dans la presse nationale. Mais autrement, sur les médias publics, avez-vous remarqué l'extraordinaire discrétion? Il faut vraiment tendre l'oreille pour savoir que c'est un soulèvement contre le communisme. Voilà, c'est le soulèvement d'un des peuples que le communisme a opprimé pendant un demi-siècle par la terreur, par la violence, par un régime barbare. Et il n'y a pas eu que le peuple hongrois, il y a eu les Polonais, les Roumains, les Bulgares, les Serbes, les Croates, les Tchèques, les Slovaques, etc. Bon, eh bien, non, ça passe absolument par pertes et profits. Il y a eu un soulèvement, on ne sait pas très bien contre quoi. Je pense qu'il nous appartient de rappeler ce que cela a été.
Je pense que au Parlement européen, n'existe plus, il n'y a plus de raison qu'il existe, mais exister. Dans les premières années où j'ai siégé dans les assemblées, c'était d'ailleurs dans mon premier séjour au Conseil de l'Europe, une commission des nations non représentées, que tout le monde appelait d'ailleurs nations captives. Et j'ai été le président de cette commission pendant 5 ans, et nous essayions, par l'intermédiaire d'une radio qui était installée en Allemagne,
Radio Freedom,
Radio Free Europe,
de donner un peu d'information à ce au-delà du rideau de fer. Ce n'était pas lié à l'époque.
Alors, le Parlement européen va mardi, puisque le Parlement européen sera en session, je vais donc me rendre à Strasbourg tout à l'heure, le Parlement européen va mardi matin rendre hommage à l'insurrection hongroise. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que les anciens communistes hongrois vont en quelque sorte participer à cet hommage parce qu'ils ont été rebaptisés socialistes. Voilà, comme ça on a lavé les vilains et on les rebaptise socialistes. Ils sont maintenant membres du groupe socialiste. Alors plus personne ne leur demande compte de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ont fait. Et il y a encore quand même un certain nombre de partis communistes. Nous, la droite nationale n'est l'héritière d'aucune doctrine totalitaire. Mais les gens considérés abusivement, on nous traite de fascistes, de nazis, que sais-je encore. Mais imaginez ce que ce serait aujourd'hui en France s'il y avait un parti nazi, un parti national socialiste.
Je pense que ce n'est pas ici qu'il y a besoin de rappeler cette chose élémentaire dont plus personne ne parle, que tant le fascisme que le nazisme ne sont que des dérivés du Parti socialiste. Et non pas de la droite.
Bien évidemment, ça avait été le travail en particulier du Club de l'Horloge qui avait consacré un colloque très important à ce sujet.
Maintenant, les communistes de l'Est européen sont rebaptisés socialistes et viennent, vêtus de probité candide et de lin blanc, nous expliquer à nous qui avons été anticommunistes et à qui l'histoire a donné raison, nous expliquer que nous sommes des affreux, des abominables, etc. Il y a quand même une indécence incroyable.
Bénédicte.
Oui, un auditeur vous rappelle que la réunion de Henri Christian Giraud est reporté au 14 novembre, même heure, même lieu.
Journaliste de grand talent, petit-fils du général Giraud.
Petit-fils du général.
Monsieur Gollnisch, si Jean-Marie Le Pen se trouve au deuxième tour
contre les socialistes,
pensez-vous que la droite apporterait ses voix contre le Front National?
Je pense qu'il y aura à ce moment-là un vrai débat. Je regrette que cette confrontation n'ait pas eu lieu la dernière fois. Ça aurait été beaucoup plus intéressant, en quelque sorte, et ça aurait pu être le cas d'ailleurs. Il s'en est fallu de pas beaucoup. Oui, je crois que ça pourrait être l'occasion pour une partie de l'électorat qui se considère comme de droite de se détacher de mouvements qui, comme le disait, ou de personnalités qui, comme le disait avec courage, quand Monsieur Junot tout à l'heure, s'agissant d'un homme dont il a été l'un des proches collaborateurs, c'est pour l'homme d'honneur qu'est Monsieur Junot, c'est pénible certainement de devoir le critiquer, et c'est pour ça que je salue quand même son courage de dire que il y a des gens, et à commencer par celui qui occupe le sommet de l'État, qui font le contraire de ce que veulent, de ce que souhaitent leurs électeurs et de ce pourquoi leurs électeurs les ont élus. Eh bien, ça pourrait être l'occasion pour une très large frange de cet électorat jusqu'à présent captif de se détacher, de secouer ses chaînes, de briser ses liens.
Merci Michel Junot, merci Bruno Gollnisch. Nous allons terminer d'ici 3 ou 4 minutes. Je vais simplement citer, comme je le fais à chaque occasion, quelques ouvrages qui m'ont particulièrement intéressé. Rémy Fontaine vient de publier le livre noir des évêques de France, paru aux éditions... je ne saurais plus, mais l'information vous sera apportée par Radio Courtoisie. C'est tout à fait intéressant. Le titre est un petit peu accrocheur, mais...
C'est pas Paul-Xavier de Guibert.
Je ne crois pas que ce soit François-Xavier de Guibert, mais nous aurons la précision. À signaler la revue de géopolitique qui s'intitule Géostratégie, en particulier son numéro 9, la politique américaine au grand Moyen-Orient. Vous pouvez acquérir cette publication au 88 rue des Entrepreneurs à Paris 15e, Institut international d'études stratégiques, a signalé dans ce numéro 9 le remarquable article de notre ami André Pertusio sur la problématique énergétique des États-Unis. Comment ne pas signaler de la part de notre ami Pierre Descaves, qui a partagé nos bancs à l'Assemblée nationale,
tout à fait,
un ouvrage un peu mordant mais sympathique qui s'intitule « Des rêves suffisamment grands », paru aux éditions d'Eterna, « Des rêves suffisamment grands » avec une préface de Jean-Claude Martinez. Je voudrais rappeler quand même, puisqu'il est en face de moi, devant moi, Michel Junot avait publié un ouvrage aux éditions de Fallois, quand Paris aimait son maire. Alors, Michel Junot et Bruno Gollnisch, nous avons une minute et demie. Est-ce que vous avez un souhait de lecture à proposer à nos auditeurs?
Eh bien, écoutez, l'un des auditeurs de Radio Courtoisie me conseille la lecture du livre d'Éric Brunet, Être de droite un tabou français. Je l'ai lu et qui explique bien l'occupation des médias par la gauche. Je l'ai lu et je ratifie tout à fait ce choix. Ça me donne l'occasion de la réponse. Encore que je ne suis pas absolument d'accord avec tout ce qu'il y a dans ce livre et qui me paraît comporter un certain nombre de lacunes. L'auditeur m'en profite pour s'étonner de mon étonnement concernant les médias français par rapport à Budapest. Non, cher auditeur, j'ai quand même quelques années de vol, quelques heures de vol dans la politique et dans les médias. Je ne suis pas étonné de cette attitude des médias français. Je suis véhément, voilà, contre.
La conclusion de cette émission reviendra à Michel Genot. Michel, vous avez une minute.
Je n'ai pas de conclusion à apporter, sinon que une fois de plus, je m'aperçois de la proximité des positions du mouvement que représente avec talent
Bruno Gollnisch
et courage Bruno Gollnisch et vous-même d'ailleurs, mon cher Michel.
Je vous en remercie.
Et auquel je n'ai pour ma part jamais appartenu, avec la droite nationale française, et que je continue à penser que la chose probablement la plus importante que j'ai fait au cours de ma modeste carrière, c'était d'appeler à l'union de toutes les droites nationales, pas d'ennemis à droite, je le répéterai jusqu'à mon gâtisme total.
C'est pas pour demain, alors.
Alors, chers amis, ce sont les éditions Renaissance catholique qui ont publié le livre noir des évêques de Rémy Fontaine. C'est un ouvrage au titre un petit peu accrocheur, mais à l'analyse tout à fait pondérée et exacte. Voilà. Et je vous engage vivement à lire cet ouvrage. Michel Junot, un grand merci. Vous l'avez toujours montré, un véritable indépendant. C'est une qualité rare aujourd'hui qui méritait d'être soulignée. Et Bruno Gollnisch, certainement un espoir de la droite nationale en France. Sûrement. Chers auditeurs, j'aurai grand plaisir à vous retrouver dans 4 semaines. Merci, au revoir.